Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
L'arbre, grande éponge bleue de Yves Klein. Durant sa très courte vie, Yves Klein a adopté une démarche créatrice radicale, novatrice et conceptuelle qui va marquer profondément des générations d'artistes. Il est le fils d'un couple de peintres assez connus, établis entre Paris et Nice. Et il se destine tout d'abord à autre chose, un peu comme un adolescent réfractaire à la tradition familiale. Il choisit le judo qu'il découvre au club du quartier général de la police en 1947. Il a alors 19 ans. À la même époque, il s'initie à la philosophie mystique de l'ordre des Rose-Croix, un mouvement qui se dit non religieux et apolitique et qui va l'influencer fortement. Pour lui, le sport revêt à l'époque une dimension spirituelle. Il partira d'ailleurs au Japon pour mieux s'initier au judo en 1952, après avoir déjà voyagé en Italie, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne. Vers 1949, donc un peu avant tous ses départs, il commence à peindre, surtout pour lui-même, des monochromes qui sont de véritables objets de culte, de vénération. De retour en France en 1954, il ne parvient pas à faire reconnaître par la Fédération française de judo le grade qu'il a atteint au Japon, à savoir ceinture noire 4e dan, autant dire un niveau exceptionnel que personne n'avait pu obtenir dans l'Hexagone avant lui. Il ouvre quand même son école de judo qu'il devra fermer un an plus tard. Entre-temps, la pratique artistique commence à le rattraper. Elle vient s'immiscer dans sa vie de sportif. Et il expose des grandes peintures monochromes, donc une seule couleur sur toute la surface de la toile, dans la salle de pratique des judokas. Il montre ensuite ces monochromes dans une galerie en tant qu'œuvre d'art à proprement parler. Et dès sa deuxième exposition, il va rencontrer Pierre Restany, le jeune critique d'art avec lequel il collaborera toute sa vie. En 1955, son monochrome orange est rejeté, refusé au salon des réalités nouvelles où il voulait le présenter. Yves Klein a lui-même refusé d'y ajouter un point noir qui en aurait fait une peinture abstraite aux yeux du jury. Il croit en la vérité de la couleur pure, la beauté est partout à l'état invisible, dit-il, et c'est à l'artiste de la révéler. Le bleu, qui devient peu à peu sa signature, est la couleur de l'infini par excellence pour Yves Klein, de l'immatériel, du ciel et de la mer. Et ce bleu va devenir sa véritable identité, l'IBECA, l'International Klein Blue, qui se retrouve dans cet arbre étrange que nous présente à présent Patricia Mincent, conférencière au Centre Pompidou.
Évidemment, on est obligé de parler de la couleur, parce que le bleu, c'est d'abord le bleu pour lequel il a déposé un brevet. Donc c'est vraiment son bleu. Le brevet, il l'a déposé en 1960, mais en fait, il a commencé à travailler sur le bleu bien avant. On parle souvent de son exposition sur le vide. En 1958, Yves Klein est encore tout jeune dans sa démarche artistique. Il est rentré du Japon où il a poursuivi sa carrière de judoka. Et quand il rentre, il commence une carrière d'artiste en France. Et la première exposition d'envergure qu'il va faire va être à la galerie Iris Claire. On dit souvent que c'est l'exposition qui s'appelle l'exposition Le Vide, mais en fait, elle n'était pas si vide, cette exposition. Klein a entièrement repeint la galerie en blanc à une époque où ça ne se faisait pas, à une époque où on n'était pas encore dans cette mode d'une pseudo-neutralité du blanc. Donc il repeint entièrement la galerie en blanc et il occulte toutes les sources lumineuses avec un filtre bleu. Et donc les spectateurs, quand ils entrent, ils sont baignés dans cette lumière bleue. Et en fait, ils ont une expérience du bleu. Et c'est quelque chose qui est déterminant pour lui, parce que finalement, la couleur bleue renvoie pour lui à l'air, à l'eau, à deux éléments qui sont essentiels, mais en même temps insaisissables. Et donc pour lui, c'est baigner les gens dans une énergie. Une énergie paradoxale, puisqu'elle est en même temps immatérielle et en même temps intense. Et sa quête du bleu, elle est sur ce principe-là.
Est-ce que c'est son énergie de créateur, son énergie à lui, ou c'est l'énergie cosmique ?
Oh, il est beaucoup plus tourné vers l'énergie cosmique. Et puis, cette idée même, avant de travailler sur le bleu, comme je le disais, il était judoka, et en fait, quand il va arriver au Japon, il va être très marqué par la philosophie zen. Parce que la philosophie zen proposait aux gens de faire le vide en eux pour concentrer l'énergie. Et donc l'idée d'entrer sur un tatami s'accompagnait de l'idée de faire le vide en soi pour pouvoir concentrer son énergie pour rencontrer son opposant. Et bien finalement, on peut considérer que cette philosophie, cette façon d'aborder le vide et l'énergie, c'est l'essence même de tout le travail de Klein, de tout son travail d'artiste.
Et donc ce bleu, si caractéristique, il l'a breveté alors ?
Il l'a breveté, et ce qui l'intéressait dans ce bleu, c'est son intensité. Il n'est ni clair, ni sombre, il est juste comme électrique. Et en fait, c'est pas tant la couleur qu'il a breveté que la façon de pouvoir accrocher le pigment. C'est-à-dire qu'en fait, il a trouvé une méthode pour garder cette intensité d'un pigment pur qu'on voit dans les magasins de peinture. Quand il fait ses monochromes bleus, eh bien, il utilise des éponges. En utilisant des éponges, il va être complètement fasciné par la capacité de l'éponge à absorber la couleur et à la garder intense. Et il va dire que c'est pour lui une image de ce qu'il veut que les gens ressentent. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent qu'en voyant ce bleu, les gens s'imprègnent de cette couleur et soient eux-mêmes complètement imbibés de cette intensité du bleu. Les premières sculptures qu'il fait avec des éponges, il les appelle les lecteurs ou les regardeurs. Parce que pour lui, c'est l'image de son public qui doit s'imprégner de cette intensité du bleu. On est vraiment dans ce rapport-là. Mais finalement, il va trouver ce titre un peu trop figuratif. Il va s'en éloigner. Mais clairement, il utilise l'éponge pour le côté informe et organique. Et en même temps, ça renvoie, je trouve, à un cerveau. Souvent, on me fait cette remarque, hein, vraiment l'image de l'intérieur du corps, toujours ce rapport à l'intériorité.
Alors, j'ai une question un peu, je ne sais pas si on peut dire naïve, mais est-ce qu'on sait en quoi elle est faite ? C'est vraiment de l'éponge naturelle ?
C'est une vraie éponge et il y a une structure en métal pour le tronc. Et la peinture mélangée à du plâtre qui est pour faire cet effet de coulure. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le protège maintenant avec du plexi. C'est un peu dommage parce que finalement, quand c'était posé au sol, on avait beaucoup plus cette sensation de la fragilité et donc cette sensation de tout le côté très paradoxal de cette image d'un arbre en même temps solide, avec une couleur antithétique à l'arbre, et en même temps se renvoie à quelque chose de complètement spirituel et mental qui flotte en l'air et qui n'a pas de lien, ou qui a un lien très ténu avec notre monde.
Yves Klein n'était jamais à court d'idées. Il passera de l'exposition du vide au monochrome bleu Klein, à la collaboration avec des femmes modèles qui deviennent comme des pinceaux vivants lors de performances, sans parler de ses cosmogonies où pendant un voyage en voiture, il laissait sa toile accrochée à son toit, s'imprégner des éléments naturels, la pluie, le vent, la poussière, pour en faire une véritable œuvre. Il s'exercera aussi à la peinture avec du feu. Et il vendra, sous forme de chèque, des zones de sensibilité picturale immatérielle contre quelques grammes d'or. Son œuvre polymorphe s'étend sur 7 petites années. Il meurt à 34 ans d'une crise cardiaque foudroyante.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.